Déstressez-vous en écoutant votre émission avec la gamme Déstress du laboratoire Synergia, expert du stress et de ses conséquences. Déstress, de stress.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Jean-Paul Curtet, chaque lundi sur Nutri Radio, c'est notre moment, moment concentration, moment partage où on apprend beaucoup. Et j'ai envie de dire, c'est une émission qui fait un tabac. Et particulièrement aujourd'hui, même si vous allez nous conseiller plutôt d'arrêter car ça nous fait enfler a priori. Hein.
Alors, c'est pas le tabac qui fait enfler, c'est l'arrêt du tabac. Parce comme le tabac a un effet coupe-faim et un effet, on va le voir, sérotoninergique, quand on arrête, on a tendance à avoir des fringales et à être attiré par le sucré, c'est ça. C'est quelque chose qui peut dissuader certaines personnes de s'arrêter. Et c'est un peu dommage, parce qu'on va le voir, c'est un sujet lourd. Je vous préviens, cette émission, elle est assez terrible d'un certain côté. Mais bon. Voilà les choses en face.
Oui, il faut regarder la réalité en face. Et alors, j'avais pas mal lu le conducteur, mais oui, c'est l'arrêt du tabac qui fait grossir. D'ailleurs, c'est vrai que on entend des gens qui disent ouais, non, mais j'ai envie d'arrêter, mais parmi les raisons pour lesquelles on n'arrête pas, c'est de dire après, j'ai pas envie de prendre du poids.
Oui, voilà, mais ça, c'est très fréquent. Hein. Ce qui est une réalité. Donc, pourquoi ? Parce que le tabac est en fait une multidépendance. Hein. Dans nos têtes, si vous voulez, on a toujours associé le tabac à la nicotine. Bon, mais c'est vrai. Il y a une dépendance à la nicotine, mais en fait, il y a plusieurs dépendances, c'est une multidépendance. Hein, parce que la cigarette, comme le sucre ou l'alcool d'ailleurs, ont en fait aussi des effets sur cette sérotonine dont on a déjà beaucoup parlé dans les émissions précédentes. Vous vous rappelez, le frein des pulsions, ça a donc un effet réducteur des tensions intérieures, ce qui explique aussi son succès. Et la plupart des échecs de l'arrêt de la cigarette est lié à l'ignorance en fait de cette multidépendance. On trouve même un effet sur la dopamine et les endorphines, hein, ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui est en fait activé par toute activité familière qu'on répète, les bonnes comme les mauvaises habitudes. Quoi.
Alors vous dites, on dit souvent que fumer tue, c'est indiqué sur les papiers, et c'est vrai. Vous dites plutôt que c'est un suicide lent.
Alors, je dirais même un suicide à petit feu, bon, parce que... certains des effets santé de la cigarette, tout le monde les connaît, mais d'autres, pas du tout. Même les médecins, parfois, je suis assez étonné. Bon, par exemple, la seule chaleur de la fumée détruit la flore et altère les muqueuses de la bouche et les gencives, mais aussi celle de la muqueuse nasale. Les fumeurs le savent, ça mène à une forte dépression des capacités de sentir et de goûter. Aussi, ça brûle la vitamine C, hein, qui disparaît dans ces muqueuses, ce qui favorise les pathologies des gencives. Hein. Vous vous rappelez que les gens qui avaient le scorbut, il y en a des milliers qui sont morts en faisant des grands voyages sur les bateaux, saignaient des gencives. Bon, et donc ça favorise, tous les fumeurs le savent, les parodontopathies. Hein, ça mène au final à quoi ? Un truc assez catastrophique, c'est le déchaussement des dents. Donc beaucoup de fumeurs se retrouvent obligés de se faire faire des implants dentaires. Bon, ça coûte une fortune, hein, des milliers d'euros par dent. Et en plus, la durée de vie de ces implants qu'on remet dans des gencives très, très, d'un très mauvais état est réduite, quoi. Évidemment, la fumée véhicule aussi des toxiques, bon, comme tout le monde le sait, mais je crois que personne n'est au courant des études. C'est-à-dire que dans une bouffée de cigarette, il y a 10 puissance 15. C'est inimaginable, c'est un chiffre qui s'approche du chiffre des étoiles. C'est 1 000 000 000 000 000 000 000 000 de radicaux libres par bouffée de cigarette. Vous vous rappelez que les radicaux libres sont les principaux responsables du vieillissement de l'ensemble des pathologies dégénératives, celles qui augmentent avec l'âge. Bon. Donc la fumée, ces toxiques endommagent l'ADN, ce qu'on appelle des mutagènes, sont cancérigènes, hein, puisque le cancer, c'est une mutation de certains gènes, sur la bouche, la gorge, les bronches, les poumons, bon. C'est pas étonnant qu'avec l'aide des autres toxiques véhiculés par la fumée, on en a identifié maintenant plus de 7000, dans lesquels il y a un gaz proche du Zyklon B, le gaz utilisé par les nazis dans les chambres à gaz, sympa, des métaux lourds comme le cadmium, du polonium radioactif, du benzène, un agent leucémiant, des goudrons, l'acide cyanhydrique, de l'ammoniac, de l'arsenic, etc. Bon, je ne vais pas faire la liste des 7000 évidemment. Mais aussi, la fumée brûle la vitamine C qui donc s'effondre avec d'autres nutriments protecteurs. Et ce n'est pas étonnant donc, que tout ça augmente le, en fait les risques de quasiment tous les cancers. Hein. On s'en rend pas compte, mais on pense tabac, cancer du poumon, les gens connaissent un peu le cancer de la gorge. Moi, j'ai connu un peintre, par exemple, qui parlait avec l'œsophage parce que on avait dû lui enlever, opérer la gorge. C'est pas très marrant, quoi. Alors, et en fait, tous les cancers, le cancer de la vessie, vous prenez tous les autres cancers, sont augmentés par... Oui, Fabrice.
Non, on vous écoute attentivement. Et alors, cette émission qui va certainement vous remonter le moral, mesdames, messieurs, mais en tous les cas, si ça peut vous faire arrêter de fumer, si ça peut vous empêcher de commencer de fumer ou à un moment donné, même... Vous savez, c'est parfois le déclic qui fait qu'on décide d'arrêter. Si ça peut y contribuer, parce que quand même, c'est incroyable, une bouffée de cigarette, 10 puissance 15 radicaux libres par bouffée de cigarette, c'est effectivement énorme. On va revenir d'ailleurs sur l'impact de ces radicaux libres et les milliers de toxiques qu'ils produisent dans un tout petit instant. La suite de cette émission, mesdames, messieurs, un peu de musique pour se changer les idées. C'est tout de suite l'amour, c'est comme une cigarette de Sylvie Vartan sur Nutri Radio. Non, je plaisante. On revient dans un tout petit instant.
Depuis plus de 20 ans, le laboratoire Synergia, pionnier en compléments nutritionnels, développe son expertise scientifique pour votre santé. Avec l'appui de médecins, nous créons des produits basés sur la synergie de micronutriments par une action optimale. Reconnu par les professionnels de santé, nous sommes les experts du bien-être et numéro 1 sur le marché des compléments du stress avec la gamme Destress. Choisissez Synergia avec Destress pour un quotidien plus sain et équilibré. Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
L'amour c'est comme une cigarette. Vous connaissez cette chanson, Jean-Paul ?
Non, je ne la connaissais pas.
Ah, vous ne connaissez pas vos classiques, Sylvie Vartan. Oh là là, attendez,
là, mais vous ne faites pas... certains, mais pas celle-là.
D'accord, c'est-à-dire que vous voulez vraiment me faire passer pour un ringard. Ok, bah merci beaucoup, c'est sympa, c'est sympa.
C'est une autre époque.
C'est une autre époque, mais il y a des classiques comme ça qui reviennent. En plus, ça a été repris, remixé par tous les plus grands DJ du monde, David Guetta, enfin je crois, ou je ne suis pas sûr. Mais bon, ce n'est pas grave, est-ce que... D'ailleurs, vous y danserez peut-être sur le dance floor de Nutri Radio, là, le 7 juin, oui. Jean-Paul, lors de ce grand Nutri Talk Gala, on aura l'occasion d'en reparler, mais de toute manière, aujourd'hui, on continue cette émission sur le tabac, sur surtout l'arrêt du tabac qui nous fait perdre du poids, et donc c'est un sujet que vous vouliez aborder, sujet grave, sujet important et des choses qu'il faut entendre. Même certains médecins, vous l'avez rappelé, n'ont pas forcément conscience de tout le spectre, on va dire, malfaisant de ce tabac. Et vous insistiez là sur les radicaux libres et ces milliers de toxiques qu'ils produisent.
Oui, donc ils produisent de l'inflammation. L'inflammation d'abord des bronches, bien sûr, des poumons. Ça finit par les scléroser, fibrose. Ça aboutit à ce qu'on appelle l'emphysème, c'est une bronchopneumopathie obstructive, ou BPCO, ce à quoi s'ajoute un gaz qui est dans la fumée, qui s'appelle le monoxyde de carbone, qui se bloque sur l'hémoglobine et qui empêche le transport de l'oxygène. Donc, résultat des courses, une baisse des fonctions pulmonaires, qui finit par une insuffisance respiratoire, se traduisant par un étouffement, obligeant le recours à des mises sous respirateur mécanique. Quand j'étais externe à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, j'avais vu des écrivains à l'époque, ils fumaient pour les salles de journalisme, tout ça, c'était bourré de fumée. Et donc, une grande écrivaine, je pense que tout le monde connaît son nom, Marguerite Duras, je l'ai vue à l'hôpital, dans son lit, avec son tuyau d'oxygène dans le nez, c'est pas très encourageant, quoi. Mais alors, avant d'en arriver là, le cœur cherche à compenser ce manque d'oxygène, ça le surmène. Le fumeur multiplie par 3 son risque d'infarctus, d'autant plus que les polluants inhalés passent pour la plupart dans la circulation sanguine et attaquent les parois des artères, qui sont de moins en moins capables de produire notre vasodilatateur principal, l'oxyde nitrique. Donc, apparition d'une hypertension, qui augmente non seulement les risques d'infarctus, mais aussi d'AVC. Et le cerveau, ben parlons-en, est lui aussi concerné, parce que vous savez que notre cerveau, il a 3 excroissances. Hein. Les deux yeux, la rétine, c'est du cerveau, et puis le bulbe olfactif au milieu, qui est plus caché, mais qui est là, qui sort du crâne, qui est directement en contact avec la fumée et tout ce qu'elle contient. Or, le bulbe olfactif, c'est déjà du cerveau, donc c'est une efficace porte d'entrée des radicaux et des toxiques vers toutes les autres aires cérébrales. Donc, c'est pas étonnant non plus que fumer accélère le vieillissement cérébral, rende plus précoce les déclins cognitifs, dans la mémoire bien sûr, mais aussi compromettre d'autres fonctions comme le jugement. Et donc, avec l'âge, un fumeur perd de plus en plus ses capacités à prendre de bonnes décisions, ce qui, évidemment, n'aide pas à arrêter ce suicide lent.
C'est incroyable, ça. Vous voyez, tous les chefs d'entreprise là, d'un certain âge qui fument, bah, remettez en question certaines décisions. Ouais, quand, une augmentation, non, mauvaise décision. Non, mais c'est incroyable. J'essaie de rendre ça un peu plus léger, mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui sont impactées hein, par ce tabac.
Ben, on peut dire tout, oui.
Ouais, on peut dire tout. Et l'espérance de vie d'un fumeur, c'est combien en admettant qu'il ne meurt pas d'un cancer ?
Elle est forcément réduite, oui. Bon, en admettant justement donc, qu'il ne meurt pas d'un cancer, d'un infarctus ou d'un AVC, elle est réduite par rapport à celle d'un non-fumeur en moyenne d'une dizaine d'années. Hein, et si le tabagisme a commencé dès l'adolescence, c'est en fait les ados, c'est la cible privilégiée de ce business de la mort que celui des cigarettiers, bah, c'est 22 ans de perte d'espérance de vie.
Incroyable.
Ouais. Et moi, je peux citer un cas qui m'a évidemment beaucoup affecté personnellement, c'est celui de mon frère, Jean-Bernard, qui s'est retrouvé avec un cancer du poumon et qui s'est suicidé à 54 ans suite à une récidive de son cancer. Quoi. Bon, la liste est tellement longue, il faudrait un livre entier. Bon, par exemple, les femmes qui fument pendant la grossesse augmentent tous les risques d'accidents obstétricaux, triplent le risque de fausse couche, doublent le risque de grossesse extra-utérine, ce qui peut se terminer par un décès, augmentent les risques de malformations chez leurs enfants, la première cause d'accouchement prématuré, ont des bébés moins développés, et physiquement et cérébralement, ils font plus d'infections, d'asthme et de morts subites. Or, je ne sais pas si vous savez qu'une femme sur quatre en France fume pendant sa grossesse. C'est une aberration totale. Et il est interdit de fumer officiellement dans sa voiture en présence d'enfants ou d'ados. Alors là, les fœtus sont encore beaucoup plus sensibles aux effets du tabac que les enfants. Donc l'État, de mon point de vue, devrait accompagner les femmes enceintes pour les aider à remplacer la cigarette par des bonnes drogues, que nous allons voir, bien sûr, et prendre des mesures véritablement dissuasives, par exemple... conditionner les allocations familiales à l'arrêt du tabac. Bon, faut trouver quelque chose pour arrêter ça, quoi.
Oh là, Jean-Paul Curté, président, on coupe les allocations familiales. Non, si vous n'arrêtez pas.
Je suis trop occupé, j'ai pas le temps d'être président.
Bon, en tout cas, ce qui est encore incroyable, et vous avez certainement déjà entendu ça, des médecins. Moi, c'était le cas pour ma sœur, son médecin, qui lui dit non, mais bon, voilà, si vous fumez, ça, vous n'y arrivez pas, ça vous rend nerveuse, allez-y pendant la grossesse. Vous voyez, donc. Il y a des médecins qui conseillent quand même de continuer de fumer si le stress provoqué par le fait de ne pas fumer est supérieur. Enfin, vous avez compris.
C'est une aberration. Je ne suis même pas au courant, mais bon, c'est.
Vous avez jamais entendu ça ?
C'est pas brillant. Non, je ne savais pas.
Je pense qu'il y a certains auditeurs qui entendent ça et qui se disent bah oui, effectivement, moi, ça m'a aussi arrivé. Ou alors, et là, je m'adresse à ma sœur, tu as vraiment un médecin qui était très bizarre. En tous les cas, c'est une destruction, vous dites, criminelle de l'humanité, mais aussi de l'environnement.
Oui. L'effet le moins connu du tabagisme, je crois, je répète même chez les médecins, c'est qu'il irradie directement les spermatozoïdes, ce qui provoque une mutation dans des mutations dans les gènes des pères. Il y a un Argentin qui a fait le calcul, il a analysé les mutations de l'ADN dans le spermatozoïde des fumeurs, et c'est pire que Tchernobyl. C'est tout d'abord une cause d'infertilité. C'est la première raison d'une fausse couche, la nature éliminant les embryons anormaux. Bon, c'est le tabagisme du père qui donne des fausses couches chez la mère, c'est la première cause. C'est quand même étonnant. Et puis si le bébé se développe, une cause majeure de malformation de plusieurs types. Là, je viens d'avoir un entrepreneur qui travaillait chez moi, et il fume un paquet par jour. Il voulait faire un bébé, il a eu du mal. Je lui ai dit, écoute, attends 6 mois après avoir arrêté de fumer. Il n'a pas attendu et sa fille a une malformation oculaire. Voilà. Lorsque et le père et la mère fument, la probabilité de l'enfant de développer une leucémie est multipliée par 4. Il faut comprendre que les mutations de l'ADN des spermatozoïdes créent des tares définitives et transmissibles de génération en génération chez l'enfant. Le tabac est donc responsable en fait d'une destruction irréversible du patrimoine génétique de l'humanité. Ça, je tiens vraiment à insister là-dessus, parce que c'est la pire chose, à mon avis, parce que c'est transgénérationnel.
Oui, est-ce que d'ailleurs, en parlant de ça, d'épigénétique, est-ce qu'il est vrai que, par exemple, si on a eu une arrière-grand-mère qui fumait, ou des arrière-grands-parents qui fumaient, voilà, 2 générations plus tard, ou même plus, on peut développer des maladies en lien avec celles qui sont caractérisées par les fumeurs ?
Oui, parce qu'on a hérité de tares génétiques qui sont liées, mais c'est plus le tabac chez le père. Que le tabac chez la mère.
Waouh. Ouais, ça c'est. Est-ce que vous pouvez revenir juste un truc sur la première cause d'infertilité et la première raison d'une fausse couche, c'est lié aux mutations des gènes du père ?
Alors, la première cause d'infertilité chez l'homme, c'est plus la pollution en général, c'est pas que le tabac. Mais après, c'est le manque de zinc hein, qui est nécessaire pour dupliquer les spermatozoïdes. On a beaucoup parlé du zinc, vous vous rappelez, pour le muscle. Mm-hmm. Chez la femme, c'est plus la fatigue, le stress, le manque de magnésium, la maigreur, bon, des choses comme ça. Après, il y a des causes, ça c'est les causes les plus banales, hein, les plus fréquentes. Après, il y a des causes, les trompes bouchées par une infection des trompes voilà, de la femme, où ça peut être une carence hormonale importante. Bon. Mais ces causes-là sont dites organiques, sont beaucoup plus rares que, évidemment, la pollution, le stress, etc.
On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Nutrithérapie & Co. C'est uniquement sur Nutri Radio.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Jean-Paul Curtet a décidé de parler de tabac aujourd'hui et je peux vous dire que cette émission, je vous conseille, si vous êtes sur le live, d'attendre aussi la rediffusion en podcast à partir de dimanche 18h et de la partager. Alors c'est des choses qui font pas plaisir à entendre, en particulier quand on est fumeur, parce que ça fait mal et c'est vrai qu'on se dit bah non, allez, j'ai pas besoin de ça, on veut parfois faire la politique de l'autruche, mais finalement, pas après pas, goutte après goutte, si celle-ci peut servir à vous faire arrêter de fumer et aussi à ne pas commencer, ben je pense que voilà, ça a toute sa place. Et donc partagez vraiment en masse cette émission. Vous parliez aussi des dégâts environnementaux énormes que cause la cigarette, Jean-Paul.
Oui, mais bon, rassurez-vous aussi, on va poursuivre l'émission par des solutions.
Ah non, moi je veux non, que on fait que flipper les gens, pas de solution. Non, évidemment, on change d'auditeur à la fin. Voilà. Il y a des choses plutôt positives hein, que va nous révéler oui, Jean-Paul, oui. Mais on attend la fin de cette émission. Parlez-nous d'abord des dégâts environnementaux.
Oui, alors, bon, ils sont énormes. Ça, c'est aussi quelque chose qui était insoupçonné au départ, mais les chiffres sont terribles. Bon, je vais être très bref parce que je vais plus m'étendre sur les solutions. Mais 6 000 milliards de cigarettes produites chaque année, 11 milliards de mégots jetés par jour dans le monde, par jour, dont chacun pollue entre 100 et 500 litres d'eau. Ben, en France, par exemple, tout simplement, 25 000 tonnes de mégots chaque année. Bon, 22 milliards de tonnes d'eau pour la culture du tabac, 5% de la déforestation, 84 millions de tonnes de CO2 par an. Il faut en fait 132 arbres qui poussent pendant 10 ans pour compenser le coût carbone d'une vie de fumeur. Bon, ça s'ajoute à tout ce qu'on a vu. Donc en fait, si on le regarde de près, la réalité, c'est que la production et la vente de tabac sont criminelles. J'appelle non sans raison la cigarette une chambre à gaz portative. On a vu qu'il y avait un gaz très proche de celui qu'utilisaient par les nazis, mais les nazis, eux, ils ont mis 6 ans à assassiner 6 millions de juifs. Les cigarettiers, ils font ça encore plus dans une seule année. Bon, il y a d'ailleurs des experts qui ont écrit un livre sur le fait que c'est un holocauste doré. Ouais, doré pour les cigarettiers, évidemment. Or, seuls quelques pays, à ce jour, ont eu le courage de cesser d'être complices de ce massacre mondial, en interdisant totalement la vente du tabac. Le Bhoutan, qui est en tête sur beaucoup de marqueurs, le Turkménistan, bon ça c'est une surprise, d'autres ont introduit des restrictions beaucoup plus étendues qu'en France, par exemple le Mexique a fait des efforts absolument considérables, le Costa Rica, bon. La Nouvelle-Zélande a officiellement lancé un compte à rebours d'interdiction progressive puis totale, et tout récemment, l'Angleterre vient de voter l'interdiction à vie de vente de tabac à ceux qui ont à ce jour moins de 15 ans, évolue dans le même sens pour permettant dans un premier temps l'apparition d'une génération sans tabac.
Et ça, on attend effectivement en France, hein, j'espère que ça va évoluer. Est-ce oui, que maintenant, une fois qu'on a dit ça...
Il y a des efforts, il y a des progrès, mais on est loin de l'intensité des mesures. C'est un peu comme pour tout, hein, le climat, la biodiversité. Ah oui.
Quand on voit en plus les émissions que vous avez déjà faites, en ce qui concerne les microplastiques, les perturbateurs ouais. endocriniens, si en plus on ajoute à ça le tabac, bon, on a bien compris que on diminue notre
stress,
longévité,
la oui. sédentarité, exactement. La malbouffe. Alors, c'est tout un ensemble, quoi. Notre société est pathogène.
Alors Jean-Paul, une fois qu'on a décidé de, parce que voilà, maintenant vous avez dit ça, il y a des gens qui vont se dire bon, ok, je vais arrêter de fumer, mais je vais peut-être prendre du poids. Est-ce qu'on peut arrêter de fumer sans prendre du poids ?
Absolument. C'est va être le sujet principal que je vais traiter maintenant, parce que donc il y a un problème, parce que si vous voulez, Les psychotropes sérotoninergiques inconscients, hein, parce que les gens fument, ils ne savent pas en fait que tout ce que ça fait, ni dans le bon sens, ni dans le mauvais sens. Hein. Dans le bon sens, c'est un anxiolytique, c'est la nicotine crée une vasoconstriction, augmente le débit cérébral sanguin, hein, c'est pour ça qu'il y avait tant d'écrivains qui fumaient. Bon, c'est bien sûr parce qu'il y a des effets intéressants que le tabac a aussi un tel succès. Mais évidemment, on pourrait remplacer le tabac par d'autres choses qui font la même chose sans être aussi dangereux. Voilà. Donc, l'arrêt du tabac, c'est vrai, on se retrouve d'un seul coup beaucoup plus attiré par le sucré, même avec des fringales, ou l'alcool, qui est un super sucre, pour remplacer les effets de la cigarette. De plus, l'appétit a tendance à augmenter, on a dit, le tabac est un effet coupe-faim en plus. Donc, comment substituer au tabac d'autres équilibrateurs du frein et de l'accélérateur des pulsions non délétères, non provocateurs de prise de poids? Bon, alors, je vais donner un certain nombre de choses très pratiques. Premièrement, il est essentiel de comprendre que la consommation de viande, quel est le rapport entre la viande et le tabac, vous me direz, ben c'est parce que la viande apporte des quantités massives d'acides aminés dits branchés, hein, ceux qui forment le muscle, la viande c'est du muscle, hein, leucine, isoleucine, valine, pour ceux qui s'intéressent aux détails, qui sont des compétiteurs en fait du passage dans le cerveau du tryptophane. Vous vous rappelez, on en a parlé du tryptophane, c'est l'acide aminé précurseur à partir duquel la sérotonine est produite. La viande est donc un anti-sérotoninergique. Il s'agit donc de la remplacer par des protéines végétales. Bon, on en a plein, hein, l'association millénaire légumineuse céréale, le quinoa qui est complet, le soja, bon, etc., qui sont, eux, anti-inflammatoires, au contraire de la viande, qui est l'aliment le plus inflammatoire de l'assiette. On l'avait déjà vu dans les émissions précédentes. Hein. Sinon, le blanc d'œuf est une protéine parfaite aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a des effets inverses, hein, des aliments? Est-ce qu'il y a des aliments sérotoninergiques? Oui. Tout d'abord, les glucides lents, qui font entrer dans nos muscles ces acides aminés compétiteurs du tryptophane, et donc dégage l'entrée dans le cerveau pour le tryptophane, d'où l'effet sérotoninergique du sucré, hein, et l'attirance pour le sucré qui est caractéristique de cette dysfonction. Mais évidemment, on conseille que les glucides complexes, les céréales complètes, les légumineuses, les légumes racines, les courges. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, la sérotonine ne peut pas être fabriquée sans vitamine B, en particulier B6. Or, plus de 90% de la population en manque, B9, B12, etc. Donc, on fait systématiquement, il est nécessaire de faire une cure d'un mois de ces vitamines à une dose dite supranutritionnelle, correctrice de déficit. Si on n'apporte que ce qu'il faut au jour le jour, ben, on ne corrige pas les déficits dans les cellules. Pour corriger les carences, donc, est relayé par un complément à usage quotidien ne contenant que, cette fois-ci, les doses nutritionnelles. Bon, troisièmement, ces vitamines B ne sont actives que phosphorylées par le magnésium. C'est un peu technique, mais bon. Par ailleurs, le magnésium, tout le monde le sait, ça par contre module le stress qui aggrave les dysfonctions du frein des pulsions. Et or, 100% des personnes non supplémentaires magnésium en manquent. Il est nécessaire au début de prendre 900 mg de magnésium élément liposoluble. C'est des doses nettement supérieures à celles qui sont connues, utilisées, prescrites même par les médecins, il y en a un peu beaucoup qui prescrivent le magnésium. Mais bon. Et puis, ça doit être associé à un rétenteur cellulaire, la taurine, puis réduire ensuite en fonction de ce ressenti, c'est la vulnérabilité, la réactivité au stress, le niveau d'énergie, etc. Et puis évidemment, toutes les fonctions de mieux gérer son stress amplifient ces effets calmants du magnésium, bon, la respiration complète, les sports, le contact avec l'eau, les massages, le yoga, la méditation, les bains de forêt, autre contact avec la nature, la musique, etc. Alors quatrièmement, un psychiatre anglais a découvert que prendre des doses de 500 mg de nicotinamide, qui est là cette fois-ci une dose pharmacologique, hein, c'est même au-delà des doses supranutritionnelles, épargne du tryptophane, parce que ce tryptophane est aussi utilisé par le foie pour produire cette forme de vitamine B3. Donc si on la donne, on ne l'utilise pas dans le foie, et donc c'est au profit du cerveau qui va faire plus de sérotonine. Ça c'était smart, et c'est techniquement, pour nous, c'est très utile. Et cinquièmement, en cas de besoin, bah, quand l'envie de fumer se fait ressentir, certains aliments ont un effet sérotoninergique bien documenté. Par exemple, on peut remplacer la cigarette par un carré de chocolat noir à plus de 74%, éventuellement avec des oléagineux qui ont même un effet sérotoninergique. Hein. C'est bien documenté par des études espagnoles, les amandes, les noisettes. Bon, les nutrithérapeutes qui sont formés maintenant connaissent bien tout ça. C'est vraiment du pain quotidien, ça. La dysfonction sérotoninergique, c'est extrêmement banal. Ils connaissent bien tout cet éventail de moyens pour restaurer les capacités de produire la sérotonine, de remplacer les drogues indésirables, comme le tabac, l'alcool et les sucres rapides par de bonnes drogues, Bon, vous vous rappelez qu'on peut trouver des nutrithérapeutes en allant sur l'annuaire de l'UDNF, l'Union des nutrithérapeutes francophones. Et puis, évidemment, toutes les autres dispositions anti-surpoids qu'on a déjà vues depuis le début des 30 et quelques émissions qu'on fait ensemble avec Fabrice, sont bien sûr à conjuguer avec ce protocole d'arrêt du tabac préventif des gains compensatoires de graisse.
Merci beaucoup Jean-Paul Curté, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour ce partage. À partir de 18h hein, ce dimanche, vous n'hésitez pas à vous rendre sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts parce que voilà, le replay sera disponible en podcast, également déployé sur toutes les plateformes de streaming audio, en tout cas les principales, et nous on va se retrouver la semaine prochaine. Au revoir Jean-Paul.
Allez, avec plaisir, passez une bonne semaine.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, restez avec nous.
Nutri Therapy & Co, Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.